C'est tout de suite, les infos.
Informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga
103.9 Ouaga, 104.7 Fobodioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité de la mi-journée, l'UE va continuer d'assister le Burkina Faso en matière d'aide au développement et de lutte contre le terrorisme. Mais la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel a insisté sur la nécessité pour le Burkina de revenir à l'ordre constitutionnel. Elle a également demandé la libération de l'ex-président Roch Kabore. Au Mali, le président de la transition, Assimi Goïta, décrète 3 jours de deuil national à compter de ce samedi en hommage aux soldats tombés hier à Mondoro. L'attaque a fait 27 soldats tués, 33 blessés, 47 terroristes ont été neutralisés. Guerre en Ukraine, Moscou a annoncé un cessez-le-feu pour l'évacuation des civils de Mariupol ce samedi. Et notre invité du jour est Roxane Lankwande, auteur du recueil de nouvelles dénommé « Déclic fatal » dans lequel est dépeint la situation de précarité de la vie des femmes africaines en général et celle du Burkina en particulier. Merci d'écouter Radio Oméga. Pour vous informer, l'Union européenne va continuer d'assister le Burkina Faso en matière d'aide au développement et de lutte contre le terrorisme. La représentante spéciale de l'UE pour le Sahel l'a fait savoir au bout d'une visite de 5 jours au Burkina, visite au cours de laquelle elle a eu des échanges avec les nouvelles autorités, mais aussi avec des acteurs de la société civile. Le point de sa visite a été fait au cours d'une conférence de presse hier vendredi à Ouagadougou, Abdulaziz Zoulabou.
Lors de sa rencontre avec le chef de l'État, la représentante de l'Union européenne a insisté dans un premier temps sur la nécessité pour le Burkina de revenir à l'ordre constitutionnel. Elle a également demandé la libération de l'ex-président Roch Kabore. Cependant, l'Union européenne est disposée à accompagner les nouvelles autorités et espère qu'elles procéderont à de nouvelles réformes pour une amélioration de la situation. Emmanuela Del Rey, représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel.
Je pense qu'on peut attendre de la transition de résultats concrets. Certainement, on doit voir si ça va passer et je pense que l'Union européenne resterera concentrée sur l'aide au pays, surtout dans les domaines de développement, mais aussi sur la question sécuritaire.
À l'issue des assises nationales, il a été convenu que la transition devait avoir une durée de 3 ans. Une durée qui, visiblement, ne semble pas déranger l'organisation, qui a plutôt le regard tourné vers les résultats. Emmanuela Del Rey.
J'ai parlé avec le président le jour de son investiture et il y avait beaucoup de discussions dans les pays sur cette question et je lui ai demandé comment il est arrivé à cette décision. Ça, c'est la question que j'ai posée. C'est s'il pensait que c'était le produit d'un processus décisionnel condivisé. Il m'a dit oui et pour ce qui concerne notre posture vers la question de la durée de la transition, je peux dire que pour nous, ce que c'est vraiment important, c'est les résultats.
Ces 5 jours pour la représentante ont été mis à profit pour un entretien avec certaines organisations de la société civile. Elle est également allée toucher du doigt les réalités que vivent les déplacés internes sur le site de Kaya.
Abdulaziz Zoulabou, Tougan aussi accueille de nombreux déplacés internes. Selon les derniers chiffres du ministère en charge de l'action humanitaire, la ville compte plus de 15 000 déplacés internes. Et à Tougan, dans la province du Sourou, les populations attendent beaucoup du nouveau premier ministre de la transition, Albert Ouédraogo, nommé jeudi par le lieutenant Paul-Henri Damiba. La synthèse des réactions avec Ambroise Kanadonki.
Cet officiel, Albert Ouédraogo, est le nouveau premier ministre du Burkina Faso. Si jusque-là, l'homme n'est pas connu sur la scène politique, le plus important est qu'il produise des résultats sur le terrain.
Il est assez discret sur le plan politique. Bon, on ne le connaît pas sur le terrain politique comme ça. Il reste à l'attendre pour son nouveau poste, ce qu'il va réaliser.
Je ne connais pas tellement M. Albert Ouédraogo, je ne connais pas tellement son palmarès, mais c'est bien, bon, on leur souhaite bon vent.
S'il y a une situation qui préoccupe aujourd'hui les populations ici à Tougan, c'est bien la question sécuritaire et son corollaire. Le nouveau chef de la primature doit travailler à restaurer la paix et la quiétude.
Dans les problèmes de sécurité, tout le monde sait que nous, on a choisi ici. Nous, on serait seulement la paix là.
Le problème de l'insécurité, il doit vraiment veiller à nous sortir de ce problème. Ce qu'on peut ajouter, c'est le problème de la vie chère. La vie est vraiment très très chère ici. Tout a vraiment augmenté. C'est à lui de faire tout le travail pour nous sortir de ce pétrin.
Pour ces citoyens interrogés, l'origine de celui qui est nommé à la tête du gouvernement importe peu. C'est plutôt les actions concrètes auxquelles il parviendra avec son équipe.
Quel qu'en soit d'où il vient, quelle qu'en soit l'ethnie à laquelle il appartient, nous en tout cas, on veut qu'il fasse du bon boulot et qu'il rehausse l'image du Burkina Faso et qu'il nous sorte de cette crise sécuritaire.
La crise sécuritaire a occasionné le déplacement de plus de 15 000 personnes au Sourou, selon les récentes statistiques. Aussi, toutes les structures éducatives de la province sont fermées à l'exception de celle de la ville de Tougan. Ambroise Kanadonki, Tougan, Radio Omega.
Et pour lutter contre l'insécurité, il faut assainir la gestion. C'est par là aussi que passe la lutte contre le terrorisme, a indiqué le secrétaire exécutif du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption. Si pour Sagado Nakanabo, l'audit des structures de l'administration publique annoncé par le président du FASO, Paul-Henri Damiba, est une action salutaire, il estime qu'il faut étendre cet audit à l'Assemblée nationale et à la Défense. Le point avec Pierre Badoulou.
L'audit annoncé par le jeune président du FASO serait aussi un moyen efficace pour lutter contre l'insécurité, si et seulement si cela s'opère dans la transparence et la loyauté. Sagado Nakanabo, secrétaire exécutif du RENLAC.
Si le président a commencé à faire des audits sur les EPE, les sociétés d'État, bon, nous pensons qu'il va étendre ça à tous les services, y compris l'Assemblée nationale, la Défense, tous les services qui gèrent les budgets de l'État doivent être audités. Donc nous avons accueilli ça avec joie. Même l'insécurité dont on parle s'est développée à cause de la mauvaise gestion. Donc si on veut lutter aussi efficacement contre l'insécurité, il faut assainir la gestion des ministères de la Défense et de la Sécurité.
Pour lui, la solution au plan sécuritaire passe par la résolution de l'équation de l'assainissement des services publics à travers l'audit, même au sein des services de sécurité.
Ils ont pris le pays, ils veulent régler la question de la sécurité. Ils ne pourront pas régler la question de la sécurité s'ils ne sont pas capables d'auditer les services de défense et de sécurité. On a des compétences pour le faire, donc il n'y a pas de raison que je me mette à douter qu'ils ne peuvent pas le faire. Non, ils peuvent le faire. Et je dirais qu'à la matière, qui veut peut.
Assainir l'administration est sans doute une belle aspiration, mais comment s'y prendre dans l'intérêt du plus grand nombre, sinon dans celui de tous les Burkinabés? Sagado Nakanabo.
Il faut renforcer la SE, il faut renforcer la Cour des comptes, il faut renforcer la CENTIF. Et nous, en ce qui nous concerne, si nous pouvons avoir des contributions, nous, on n'hésitera pas à le faire. Parce que c'est notre pays à nous tous. Et nous avons intérêt à ce que le pays soit mieux géré qu'il ne l'est actuellement.
Tout porte à croire que l'audit est un moyen pour le gouvernement de renforcer les caisses, comme cela a été le cas sous le Conseil national de la transition CNT précédent.
L'Institut national de la santé publique, INSP, et ses affiliés, à savoir l'ONSP, ont tenu un atelier de dissémination des produits de l'information sur la santé hier vendredi à Ouagadougou. Objectif, promouvoir la diffusion et l'utilisation des résultats de recherche en santé. Plus de précisions avec Hervé Mbayam et Pierre Badolo.
Le présent atelier vise l'analyse, la synthèse, l'interprétation et la projection des différentes données sanitaires, médicales et économiques. Ces données vont permettre aux décideurs d'aboutir à des résultats optimaux dans la mise en œuvre de leurs programmes sanitaires. Ali Kombari, représentant le secrétaire général du ministère de la Santé.
Nous sommes là pour disséminer des données sur les informations recueillies au niveau du système d'information sanitaire qui va permettre justement de faire un bilan de la situation et pouvoir avoir des données probantes qui nous permettront justement de mieux planifier. Nous les décideurs, nous avons besoin justement de ce type de documents-là pour permettre d'avoir vraiment des indicateurs fiables pour mieux assurer justement la planification au niveau du système de santé.
La COVID-19 a bouleversé le programme sanitaire et cela a eu un impact sur plusieurs autres maladies qui constituent des priorités pour l'Institut national de la santé publique, a laissé entendre le directeur général de l'INSP, Dr Hervé Yen.
Nous faisons face traditionnellement à cette crise sanitaire de la COVID-19 et qui a eu des impacts sérieux sur le reste des programmes de santé, comme toujours la lutte contre le paludisme, la lutte contre la tuberculose et la lutte donc contre les autres maladies transmissibles comme les hépatites virales. Sans oublier les autres maladies chroniques que nous connaissons comme l'hypertension artérielle, le diabète et les maladies cardiovasculaires.
Créé par une volonté politique afin de contribuer à la protection de la santé de la population, l'INSP est une fusion de 4 structures métiers, à savoir le Centre Muraz, le Centre de recherche en santé, Nouna, le Centre national de recherche et de formation sur le paludisme et le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. À cela vient s'ajouter 2 nouvelles structures que sont l'ONSP et le laboratoire Centre de référence LCR.
Et puis la société immobilière Abdul Service International poursuit ses travaux de construction des logements sociaux au profit des acteurs du monde universitaire de Bobo-Dioulasso. À l'issue de la remise des clés de la première phase en septembre 2021, la société avait lancé immédiatement la seconde phase qui abrite près de 1000 logements en compagnie de son président directeur général Abdul Ouedra Ogo. Des journalistes ont visité le chantier pour voir l'évolution des travaux. Le reportage de Mamou Ouedra Ogo et Paul Soma.
Dans cette seconde phase de construction de la cité de la communauté universitaire de Bobo-Dioulasso, les travaux avancent sans interruption. De la maçonnerie en passant par la soudure, la plomberie et la peinture, toutes les équipes sont au rendez-vous pour le respect du délai prévu. Hamza Yanogo, ingénieur des travaux à Abdul Service International.
Pour cette deuxième tranche-là, le niveau d'avancement, on pourrait le situer à plus de 70% d'exécution. Les types de logements varient, de logements de type F2, F3 social, F3 semi-fini, F3 économique, et les types F4. Les travaux d'aménagement des voies. Il y a la Sonabel aussi qui est là et il y a l'ONEA aussi qui continue de faire son extension pour que tout le site là soit alimenté en eau.
De la première à la phase actuelle, ce projet de logements sociaux a connu une forte participation des acteurs du monde universitaire, à en croire le président de la mutuelle des travailleurs de l'université Nazi Boni, Dr Salifou Ouedraogo.
Il y a eu un engouement très grand par rapport à ce site là et c'est l'un des meilleurs sites des agences immobilières du Burkina Faso. Nous avons commencé à 150 logements, on est allé à 800 et aujourd'hui on a plus de 1000 pour la deuxième phase.
Les logements de la première phase, en majorité occupés, sont bien appréciés par les bénéficiaires.
Arnaud Sibnoga Nassa. Ça fait un mois et demi bientôt que je suis venu avec ma famille pour en janvier. Depuis lors, vraiment, dans l'ensemble, tout se passe bien.
Un motif de satisfaction pour le président directeur général de la société Abdul Service International, Abdullah Ouedraogo.
Si nos partenaires, l'université Nazi Boni, sont satisfaits, je suis très content parce que ça permet quand même de voir la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et encore aussi, la promotion immobilière, c'est pas du tapage. C'est-à-dire que quand on est sur le terrain et puis on voit la réalité, tous ceux qui enlèvent leur argent, ça encourage les financiers.
Les coûts des différents types de standing de cette seconde phase varient entre 9 et 40 millions de francs CFA, en croire les services techniques de Abdul Service International. Paul Soba, Bobo, Omega, Média.
Au Mali, le président de la transition Assimi Goïta a décrété 3 jours de deuil national à compter de ce samedi en hommage aux soldats tombés hier à Mondoro dans le cercle de Douanza, région de Mopti. L'attaque a fait 27 soldats tués, 33 blessés, dont 21 grièvement. 7 sont portés disparus. Dans un communiqué, le gouvernement affirme que les forces armées maliennes ont neutralisé 47 terroristes. D'importants dégâts matériels sont également à noter. Et puis guerre en Ukraine, la Russie a annoncé ce samedi un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils de deux villes de l'est de l'Ukraine dans le port stratégique de Mariupol, encerclé. Après des concertations entre des représentants de Kiev et Moscou, l'emplacement des couloirs humanitaires et des points de sortie avait été déterminé en accord avec les autorités ukrainiennes, selon Mykhailo Podolyak, conseiller de la présidence ukrainienne. Un troisième round de négociations russo-ukrainiennes pourrait se tenir samedi ou dimanche, mais les chances de parvenir à des progrès paraissent extrêmement minces, le président russe Vladimir Poutine ayant prévenu que le dialogue avec Kiev ne serait possible que si toutes les exigences russes étaient acceptées. Le président russe exige, entre autres, un statut neutre et non nucléaire pour l'Ukraine, sa démilitarisation obligatoire et la reconnaissance de l'annexion de la péninsule de Crimée par la Russie. Et sans transition, un mot de sport. Hier s'est ouverte la 13e édition des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin sur fond de conflit entre la Russie et l'Ukraine. La cérémonie d'ouverture s'est tenue sous les yeux du président chinois Xi Jinping et en l'absence des sportifs russes et biélorusses, mais bien avec les Ukrainiens. Moscou a dénoncé une situation monstrueuse et une honte, promettant de saisir la justice sportive. Au total, l'événement réunit 564 sportifs d'une quarantaine de pays qui s'affronteront dès ce samedi. Les Jeux paralympiques d'hiver de Pékin prennent fin le 13 mars prochain.
L'invité de la rédaction.
Notre invité du jour est Roxane Lankwande, auteur du recueil de nouvelles dénommé Déclic fatal, sorti officiellement en novembre 2021. Dans ce recueil de nouvelles de 93 pages réparties en 7 chapitres, elle dépeint la situation de précarité de la vie des femmes africaines en général et celle du Burkina en particulier. Dans cette interview accordée à Radio Méga, l'auteur revient sur ses premiers pas dans l'écriture et les difficultés qu'elle a rencontrées lors de l'édition de son recueil. Roxane Lankwande répond aux questions de Marina Traoré.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez dédicacé en novembre un ouvrage qui a pour titre Déclic fatal. En quelques mots, Déclic fatal raconte quoi ?
Déclic fatal est le titre de la première nouvelle en réalité. Donc cet ouvrage-là a hérité du titre de la première nouvelle. Et ce titre-là colle tellement à ce que j'ai voulu exprimer que je l'ai gardé. Donc, déclic fatal, c'est le déclic de ces femmes-là en ce début de siècle. Alors, déclic fatal est un recueil de 7 nouvelles. On a pour habitude de dire 7 nouvelles, 7 misères, et une femme au centre de chaque nouvelle.
D'où vous est venue cette inspiration-là?
De la vie de tous les jours, de certaines situations vécues par des personnes que je ne connais pas personnellement, mais des histoires entendues par-ci, par-là. Donc, certaines de ces nouvelles-là sont tirées de faits réels, donc le fond est souvent vrai, même si ce qui est du reste, les noms et tout, c'est de l'inventer.
Pourquoi avoir décidé de mettre l'accent sur la femme?
Bon, déjà parce que les gens ont pour habitude de dire que je suis féministe, mais moi, je me décris comme humaniste, parce que pour moi, les droits des femmes sont les droits des hommes. Et justement, il y a un problème parce que beaucoup ont du mal à le comprendre. Donc, il fallait quand même mettre le doigt sur certaines réalités, narrer certains faits afin de provoquer un déclic.
Vous l'avez dit, l'objectif, c'était de provoquer un déclic. Ça nous renvoie au titre, un déclic fatal. C'est vrai que ça tique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi déclic fatal?
Alors, il va falloir que je vous conte un peu l'histoire. Donc, c'est l'histoire de la vieille Sita. Voici une femme vieillie avant l'âge à cause de tous ces problèmes-là, tout ce poids qu'elle a dû porter parce qu'elle est une femme dans une société misogyne dans laquelle elle a évolué, elle a grandi. Donc, ça a commencé par la perte de sa maman quand elle venait au monde, l'excision, le fait qu'elle n'aille pas à l'école, un mariage forcé à un homme pourtant éclairé, instituteur, qui après l'a maltraitée, c'était des violences, c'était des infidélités, ça allait tellement loin que ça lui arrivait d'amener ses maîtresses dans le lit conjugal. Ils ont eu une fille, ils n'en voulaient pas parce que c'était une fille, donc elle était aussi délaissée, la mère pareil, elle devait se débrouiller toute seule. Puis il y a eu ce soir-là où il a voulu se débarrasser de Sita et de garder quand même cette petite-là qui n'aimait pas vraiment. Du coup, en l'espace de quelques secondes, Sita a eu un déclic. Disons qu'elle a vu toute sa vie défiler. Du coup, elle a ramassé une pierre qui traînait là. Elle a assommé son époux qui est mort sur le coup. Donc, d'où le déclic fatal. C'est-à-dire que tout s'est passé très vite. Il y a eu le déclic et immédiatement, il y a eu cette mauvaise réaction-là qui a suivi. Après, j'espère que les déclics ne vont pas toujours tourner comme ça, on l'espère bien. Mais là, c'est ça l'histoire en fait.
Aujourd'hui, dit-on, les jeunes lisent de moins en moins. Vous, vous êtes jeune, mais vous avez cet amour pour l'écriture. D'où est-ce que ça vient?
Il faut dire que moi, j'ai commencé à lire dès le primaire. Et ça fait que, à force de lire, en fait, en sixième, j'ai commencé à écrire. Ça a commencé par des petits contes, parce que j'aimais bien les contes. Après, c'était des poèmes. Ça m'arrivait même d'écrire des poèmes pour mes camarades de classe. Puis, en grandissant, c'est devenu plus sérieux et j'ai commencé à écrire des clics fatales en première.
Plusieurs écrivains ont parfois des soucis pour faire paraître leurs ouvrages, notamment des problèmes d'édition et tout. Est-ce que ça a été votre cas?
Ça a été un calvaire. Je me souviens qu'à partir de la première année, quand j'ai décidé de publier cette œuvre-là, j'ai commencé à taper un peu à toutes les portes pour voir déjà si je pouvais avoir l'accompagnement d'une maison d'édition. Et là, ça a été une énorme déception parce que déjà, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de maison d'édition. J'ai continué à fouiller un peu partout jusqu'à ce qu'on me recommande une maison d'édition. Et ça a été vraiment un calvaire parce que ça a duré quoi, 6 ans. Parce que ce n'était pas seulement un problème financier, ce n'était même pas dû à ça, parce que je me suis débrouillée pour trouver cet argent-là. Mais le problème, c'est qu'il y a eu tellement de soucis. On a dû changer les maquettes plusieurs fois. L'édition ici, ce n'est pas facile, elle est presque inexistante d'ailleurs. C'est plus du commerce, on va dire. Donc, déjà, il faut avoir de l'argent. Et avec de l'argent aussi, il y a quand même toutes ces pages noires-là qu'il va falloir faire avec.
Quelle est votre stratégie aujourd'hui pour écouler cet ouvrage-là?
Déjà, je tiens à remercier mes lecteurs parce que Déclic Fatal a été très bien accueilli. Et la stratégie, ça reste les réseaux sociaux, les médias comme vous qui nous donnez, qui nous ouvrez vos portes, les étudiants, les élèves. Donc, c'est vraiment une communication du terrain. Les réseaux sociaux aident vraiment beaucoup.
Travaillez-vous sur de nouveaux projets actuellement?
Actuellement, je travaille sur le prochain à paraître. Dieu voulant, le prochain livre paraîtra cette année même. Et aussi, je travaille avec les aînés des écrivains de la région de l'Est. Donc, ensemble, on travaille sur un ouvrage qui sera vraiment dédié au pays et plus particulièrement à la région de l'Est qui vit des moments difficiles.
Merci.
Merci à vous.
À l'instant, notre invitée Roxane Lankwande, auteure du recueil de nouvelles « Déclic fatal ». C'est tout pour ce journal réalisé par Fidèle Compaoré. Excellent après-midi à toutes et à tous.
Radio Omega, l'info en direct.